France Culture. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Le stupéfiant image est un terme peu connu, bien loin de la notoriété du surréalisme. C'est pourtant un procédé à la base de la poétique surréaliste, dont la parenté est attribuée par André Breton à Pierre Reverdy, qui écrivait dans un article de la revue Nord-Sud de mars 1913 « Une image n'est pas forte parce qu'elle est brusque ou fantastique, mais parce que l'association des idées est lointaine et juste. » C'est cette association d'images normalement incompossibles, émergeant de façon brutale et inattendue, qui constitue le socle poétique du surréalisme, inspiré donc de la poétique reverdienne. Ce numéro d'Albatros de Alain Borer, diffusé pour la première fois le 18 novembre 1979 et réalisé par Janine Antoine, tente justement de dessiner des contours plus précis de la doctrine poétique surréaliste, avec Jean-Jacques Brochier et Marie-Claire Dumas. Éluard, Aragon, Desnos ou encore Perret sont ici mis à l'honneur, élus par Roseliane Goldstein, Valère Novarina, Christian Rist et Léon Spiegelman. Une tentative de définir le surréalisme en littérature, donc, c'est tout de suite dans les Nuits de France Culture.
Qui est là ? Ah, très bien. Faites entrer l'infini. Louis Aragon.
Le stupéfiant image ou la poétique surréaliste par Alain Borer, Janine Antoine, avec la participation de Jean-Jacques Brochier, Marie-Claire Dumas. Voix, Roseliane Goldstein, Valère Novarina, Christian Rist, Léon Spiegelman. Document de l'Institut National de l'Audiovisuel, recueilli par Suzanne Legrand.
Lâchez tout, lâchez Dada, lâchez votre femme, lâchez votre maîtresse, lâchez vos espérances et vos craintes, semez vos enfants au coin d'un bois, lâchez la proie pour l'ombre, lâchez au besoin une vie aisée, ce qu'on vous donne pour une situation d'avenir. Partez sur les routes.
Littérature. Revue fondée par Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupeau.
Le mot surréalisme est dû en grande partie à un hasard. Parce que surréalisme, c'est un mot qui a fait fortune parce qu'il était assez vague. Au fond, on aurait pu appeler ça le surnaturalisme comme Nerval l'avait choisi. Nous avons choisi ce mot pour rendre hommage à Guillaume Apollinaire, qui avait, selon nous, été un des précurseurs du surréalisme. Mais tout de même, il faut reconnaître que nous avons donné à ce mot une autre dimension que celle qu'avait choisi Apollinaire. Et cependant, il faut reconnaître que le surréalisme a dû beaucoup à l'attitude extrêmement désinvolte d'Apollinaire vis-à-vis de la littérature. Mais enfin, c'est un mot qui, malgré tout, représente aujourd'hui quelque chose.
Écriture automatique. André Breton.
Épervier incassable. Agala Éluard. La ronde accomplit dans les dortoirs ses ordinaires tours de passe-passe. La nuit, deux fenêtres multicolores restent entr'ouvertes. Par la première s'introduisent les vis aux noirs sourcils. À l'autre, les jeunes pénitentes vont se pencher. Rien ne troublerait autrement la jolie menuiserie du sommeil. on voit des mains se couvrir de manchons d'eau. Sur les grands lits vides s'enchevêtrent des ronces, tandis que les oreillers flottent sur des silences plus amoureux.
Récit de rêve. Paul Éluard.
Tout jeune, j'ai ouvert mes bras à la pureté. Ce ne fut qu'un battement d'ailes au ciel de mon éternité, qu'un battement de cœur amoureux qui bat dans les poitrines conquises. Je ne pouvais plus tomber. Aimant l'amour. En vérité, la lumière m'éblouit. J'en garde assez en moi pour regarder la nuit, toutes les nuits. Toutes les vierges sont différentes. Je rêve toujours d'une vierge. À l'école, elle est au banc devant moi, en tablier noir. Quand elle se retourne pour me demander la solution d'un problème, l'innocence de ses yeux me confond à un tel point que, prenant mon trouble en pitié, elle passe ses bras autour de mon cou. Ailleurs, elle me quitte. Elle monte sur un bateau. Nous sommes presque étrangers l'un à l'autre, mais sa jeunesse est si grande que son baiser ne me surprend point. Ou bien, quand elle est malade, c'est sa main que je garde dans les miennes, jusqu'à en mourir, jusqu'à m'éveiller. Je cours d'autant plus vite à ces rendez-vous que j'ai peur de n'avoir pas le temps d'arriver avant que d'autres pensées me dérobent à moi-même. Une fois, le monde...
Mots dans les mots. Robert Desnos.
Le parfum des déesses berce la paresse des défunts. La milice des déesses se préoccupe peu des délices de la messe. Les vestales de la poésie vous prennent-elles pour des vessies, ô pétales ? Francis Picabia, l'ami des castors, fut trop franc d'être un jour picador, à Cassis, en ses habits d'or. Rose, c'est la vie, voudrait bien savoir si l'amour, cette colle à mouche, rend plus dur les molles couches.
Marcel Duchamp, Rose, c'est la vie.
Parmi nos articles de quincaillerie paresseuse, nous recommandons un robinet qui s'arrête de couler quand on ne l'écoute pas. Au vert toute la nuit, paroisse. Il faut dire la crasse du tympan et non le sacre du printemps. Le système métrique par un temps blénorragieux. Débat en soi, la chose aussi. Mamnésie. Li-é-rature.
Littérature. Revue fondée par Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupeau. Premier numéro, mars 1919. André Breton.
À plus de 20 ans derrière nous, j'entends sourdre l'espoir indistinct, irrépressible, qui nous a conditionnés à quelques-uns et soulevés au-dessus de nous-mêmes. Je pense à tout ce qui nous a possédés alors, à ce torrent qui nous précipitait en avant de nous, emportant dans un rire de cascade tout ce qu'on nous opposait. Le secret de cette énergie est à retrouver.
Littérature. Revue premier numéro, mars 1919. Le titre avait été suggéré par Paul Valéry.
Littérature en effet un titre qui a été fourni par Valérie. Est-ce que c'était par ironie, ou est-ce que Valérie comprenait très bien que la littérature allait passer par le surréalisme? C'était quand même quelqu'un de très intelligent.
Jean-Jacques Brochier.
On ne saura jamais. Ce qui est certain, c'est que Breton était un homme qui était dans une mouvance littéraire. Il aimait Valérie, il avait une culture fabuleuse, il aimait Huysmans, il aimait d'autres écrivains de la fin du XIXe siècle, je pense par exemple à Fornereau et Nerval. Il est sûr que ces gens-là ont été absolument obsédés de littérature. Et même s'il a été courant de dire que même eux l'ont dit, que les surréalistes détestaient la littérature et dans leurs livres faisaient tout sauf de la littérature, il n'empêche que les surréalistes ont laissé une œuvre littéraire et que Anicet ou le Panorama roman d'Aragon ou que Nadja de Breton sont des œuvres littéraires au même titre que Les Filles du Feu de Gérard Nerval ou que Les Chants de Maldoror de Lautré Hamon. Donc la littérature, pour eux, était essentielle. Mais d'autre part, la littérature était, pour eux, le moyen de peser. Ils ont été très déçus par les manifestations dadaïstes. Ils se sont très vite aperçus que c'est par le texte, par la pensée et par l'écrit qu'ils arriveraient peut-être à avoir un poids, avoir une influence.
Alors justement, c'est ça, leur amour de la littérature. Et Breton dit, à propos de la revue Littérature, que c'est une revue de bonne compagnie. Alors en effet, c'est de bonne compagnie parce qu'on y trouve pêle-mêle Gide, Morand, Rieu-La Rochelle, André Salmon, Valérie, Fargue, dans les premiers numéros notamment. Alors où est l'esprit négateur?
L'esprit négateur, c'est d'avoir arrêté Littérature, sans doute. Et d'avoir fait la Révolution surréaliste, le titre de la seconde revue surréaliste, qui alors là avait éliminé en effet toutes ces grandes signatures. Les surréalistes au début avaient un petit côté province, si j'ose dire. Ils arrivaient, ils créaient une revue, ils voulaient quand même des gens célèbres. Et puis en plus, ils avaient une admiration folle pour Breton, par exemple, pour Valéry. Malgré toutes les bagarres après, les dadaïstes avaient beaucoup aimé Gide à cause des Gaffes du Vatican et à cause du personnage de l'Afcadio. Reverdy, qui avait créé la poésie cubiste 20 ans avant, était quand même pour Breton et pour Aragon un grand poète, comme Saint-Paul Roux. Donc ils avaient des admirations qui coïncidaient avec des célébrités, si j'ose dire. Mais ils ne s'arrangeaient pas pour faire passer les célébrités avant leurs admirations. Claudel, par exemple, n'a jamais écrit dans littérature.
Claudel n'était pas spécialement leur dissident, pourtant ils en avaient.
Oui, mais alors Claudel, non. Mais les dissidents, il y en a eu. Alors, il y a eu les dadaïstes d'abord, puis ensuite il y a eu, mais alors au moment du second manifeste, là, en 1932, si je me souviens bien, toute une partie des surréalistes qui ont refusé de suivre, disons, l'hégémonie, pour ne pas dire la tyrannie de Breton. Et ça a donné lieu à ce fameux pamphlet qui s'appelait Un cadavre, où il y avait écrit Desnos, qui ensuite s'est réconcilié avec Breton, mais difficilement, et à qui Breton reprochait beaucoup de faire des slogans publicitaires à la radio.
United Nations. Un rêve de Robert Desnos, dit par Robert Desnos, réalisé par Robert Desnos, enregistré sur disque avant 1939.
Je me trouve tout d'un coup dans un pays étrange où le vent souffle avec violence.
S'écria d'un capitaine.
Nous étions toute une bande qui marchions en chantant.
Marjolaine, qu'avez-vous donc, la belle digue digue, la belle digue donc.
Marjolaine, qu'avez-vous donc, la belle digue digue, la belle digue donc.
Les autres allaient très vite. Moi, je ne pouvais pas arriver à les suivre, malgré mes efforts.
Attendez-moi, attendez-moi.
Marjolaine, qu'avez-vous donc la belle...
Soudain... Devant nous, il y avait...
Mais qu'est-ce que c'est que ces saletés, des hippopotames?
Oui, des hippopotames, tout là. Ça leur s'est inouï.
Ils se mettent tous à fuir. Moi, je ne pouvais plus bouger mes jambes.
Et tout à coup...
J'étais en train de marcher sur Max Rémier qui était allongé par terre et qui était long de 30 mètres et couvert de taches comme un corps de girafe. Les deux hippopotames se précipitèrent sur nous et au moment où ils allaient nous écraser... Je vis derrière mon arbre un défilé surprenant. Toutes les bêtes sauvages du monde. Une vraie ménagerie. ce moment-là, une tempête s'éleva. Le vent, la pluie, l'orage faisaient fuir les bêtes sauvages. Était devenue une tempête de musique. La forêt était devenue une salle de concert. On applaudissait et pourtant il n'y avait personne dans la salle. Les applaudissements devenaient assourdissants. On aurait dit une fusillade.
Entrez là, vous serez à l'abri. Entrez là, mais entrez donc.
C'était l'ouvreuse de la salle de concert qui me poussait dans une loge capitonnée. La loge était un abri bétonné où se retrouvaient tous les spectateurs tassés comme des sardines. Au-dessus de nous, la salle s'effondrait. La fusillade continuait. Dans l'abri, tout le monde se plaignait d'étouffer.
Au secours !
De l'air !
À quoi ?
Retour ! Retour !
Moi-même, j'allais étouffer quand je me suis réveillé haletant, mon oreiller par-dessus ma tête.
Il y a eu une dissidence énorme. Et en même temps, la force de Breton, d'une certaine manière, c'est d'avoir dominé cette dissidence et c'est d'avoir continué le surréalisme avec ceux qui restaient avec lui ou avec ceux qui sont revenus plus tard avec lui.
Le lieu de résolution de ce qui s'est cherché et, j'espère, se cherche encore authentiquement sous le nom de surréalisme, ne nous y trompons pas, ne saurait être en 1946 la place publique. Il continue, en l'occurrence, à n'y avoir de licite que trois mots d'ordre, dont je maintiens qu'ils sont pleinement compatibles, que ce triple mot d'ordre plutôt, dont j'ajoute que les événements de ces dernières années l'ont promu à un degré d'extrême urgence, transformer le monde, changer la vie, refaire de fond en comble l'entendement humain.
Je pense qu'il faudrait partir de quelques remarques fondamentales du style « Quand les surréalistes commencent à se constituer en groupe dans les années 1919-1924, l'une de leurs questions, c'est « Comment échapper au piège de la littérature ?»
Marie-Claire
Donc,
Dumas.
Donc, comment échapper à des distinctions de genre, des distinctions de forme qui font loi dans l'institution littéraire ? Ceci est un premier point. Qui va avec un deuxième point, comment cependant écrire, comment pratiquer la parole ou l'écriture, mais cette fois-ci en l'articulant à un projet fondamental qui est ce que les surréalistes appelleront une nouvelle déclaration des droits de l'homme, ceci dans la révolution surréaliste. Comment opérer dans le langage et par le langage, une révolution dans la définition de ce qu'est l'homme. Il y a donc un enjeu très profond de l'écriture. C'est, me semble-t-il, ce qu'éprouvent les surréalistes et c'est pourquoi l'exploration systématique du langage ira chez eux de pair avec une exploration systématique de ce qui peut définir ou redéfinir l'homme. On voit bien entendu ici intervenir des références fondamentales aux découvertes de Freud pour lesquelles les surréalistes ont une admiration peut-être teintée de réserve, mais qui détermine cependant une large part de leur expérimentation du langage.
Mais dans ce sens, qu'est-ce qui se passe dans le langage surréaliste ? Comment pourrait-on définir globalement la pratique de la poésie surréaliste ?
La pratique de la poésie surréaliste me semble reposer sur la confiance fondamentale faite à une dynamique propre du langage. Face à un langage dont les surréalistes voient qu'il s'est en quelque sorte figé dans des pratiques de communication, les surréalistes réclament un langage qui serait fondé essentiellement sur des pratiques que j'appellerais d'expression. C'est-à-dire, finalement, il s'agit de donner voix à ce qui, d'habitude, n'a pas voix, donner expression à ce qui n'est pas immédiatement communicable, et ensuite peut venir ou pas un travail de décryptage, de compréhension, de communication, mais qui n'est pas l'aspect le plus fondamental
le bonbon.
De l'expression surréaliste.
Je suis le roi des montagnes. J'aide de beaux yeux. Il fait une chaleur. J'ai nez, j'ai doigt, à chaque main. J'ai dans. Tu me fais... Merde, je me suis trompé. Je sais pas si j'en ai fait 32 ou pas. C'est ça le problème. Alors, si quelqu'un peut suivre. Bon. 7 x 4, 28. Dans. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 4 fois, 5 fois 6, 30. Oui, 5 fois 6, 30 plus 2, d'accord. Le bonbon. Je suis le roi des montagnes. J'ai de beaux yeux. Il fait une chaleur. J'ai nez. J'ai doigt. Pourquoi j'en mets 6? Doigt, oui. Le bonbon.
Robert Desnos.
Je suis le roi des montagnes. J'aide de beaux yeux. Il fait une chaleur. J'ai nez. J'ai doigt. À chaque main. J'ai dans. Tu me fais souffrir, mais peu m'importe la porte.
Si les mots font l'amour, comme le dit Breton, c'est qu'il y a entre eux des potentialités d'échange et de métamorphose au niveau des signifiants que le discours de communication n'exploite pas ou peu. Il y a des potentialités de jeu là où le discours quotidien n'use que des potentialités de sérieux. Et c'est pourquoi l'expérience à la fois des roses c'est la vie, chez Desnos, du langage cuit, de l'homonyme, toutes ces expériences qui consistent à mobiliser dans la langue ce qui n'est pas normalement mobilisé, des jeux de signifiants, de contre-paix, des jeux même sur la valeur sémantique des termes, et la résurgence, la remise en activité de proverbes, de formules toutes faites, ce que fait Éluard dans les exemples ou dans les proverbes remis au goût du jour, ce que fait Léris dans le glossaire, où il sert ses gloses, comme il le dit, où il redéfinit les termes de la langue, non pas du tout en fonction des signifiés, mais par simple jeu d'équivalents signifiants. Tout cela représente, me semble-t-il, une exploration de la langue à un niveau qui n'est pas celui qui est exploité normalement dans la littérature.
Babil labial. Dessin scindé. Portrait proté. Buvard, ses bavures bavardes. Logique, qu'elle gise en loque. Glossaire, j'y sers mes gloses. De Michel Léris.
Oui, disons que dans mon ordre, du point de vue d'une analyse de poétique, je mettais les jeux de signifiants. Parce que historiquement, c'est quand même ce qui les a travaillés dans la période 1922-1924. Et la théorie de l'image arrive avec le manifeste, même si elle est pratiquée fondamentalement avant. Alors, je peux vous donner mes choix de texte. J'avais choisi quelques textes chez Aragon. Il aurait été intéressant de voir comme dans la pratique poétique, il y a d'abord toute une période de gommage de l'héritage. Bon. Alors, je propose deux textes d'Aragon. L'un qui est bien célèbre pour le défi à la communication, c'est le poème Persienne, Persienne, Persienne. Donc,
Persienne, Persienne, Persienne. Persienne, Persienne, Persienne. Persienne, 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 Persienne.
Persienne, 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 Persienne.
Persienne, Persienne. Persienne, Persienne, Persienne. Persienne?
Bon. Chez Éluard, j'avais...
Oui, moi je voulais vous interroger de façon plus technique, quoi, par exemple sur le com.
Oui. Les surréalistes ne sont pas très favorables au com.
Ah oui, mais ça manque pas le com. Alors. Est-ce que vous connaissez
le com traditionnel dans la mesure où le com traditionnellement introduit finalement la naturalisation de l'image, c'est-à-dire finalement introduit l'image qui joue sur le moins d'écart possible. Ce qui fait qu'ils sont réticents à l'égard du com, c'est justement le fait que traditionnellement, dans la poésie, disons, romantique et avant, le com avait pour objet de manifester la congruence, la cohérence des termes mis en relation, une analogie. Alors, ils ne peuvent l'utiliser, disons, de manière cohérente avec leur point de vue, que pour mettre ensemble ce qui n'a rien à voir ensemble. Mmh. C'est le comme de l'écart. Bon, je vous proposais du côté d'Éluard les 11 haïkai, parce que dans les 11 haïkai, ce sont des poèmes très courts et qui ont une valeur d'explosion humoristique et en même temps de justesse extraordinaire. À moitié petite, la petite montée sur un banc. Enfin, toutes ces formules
c'est très beau,
qui sont extrêmement, justement... prémédité, finalement, extrêmement juste, où il n'y a pas un mot de trop, et qui montre la très grande différence, alors, d'Éluard à l'égard des surréalistes. C'est le côté ajusté, c'est le côté ponge, disons, c'est le côté polant.
À moitié petite, la petite montée sur un banc. Le vent, hésitant, roule une cigarette d'air. Palissade peinte. Les arbres verts sont tout roses, voilà ma saison. Le cœur à ce qu'elle chante, elle fait fondre la neige, la nourrice des oiseaux. Paysage de paradis, nul ne sait que je rougis au contact d'un homme, la nuit. La muette parle. C'est l'imperfection de l'art, ce langage obscur. L'automobile est vraiment lancée, quatre têtes de martyrs roulent sous les roues. Roues des routes, roues fil à fil déliées, usées. Femme sans chanteur, vêtements noirs, maison grise. L'amour sort le soir. Une plume donne au chapeau un air de légèreté. La cheminée fume.
Et puis, dans Capitale de la douleur, un autre poème. Non, Denise disait merveille, c'est dans l'autre. Qui est un poème fait d'Alexandrin avec des rimes.
Paul Éluard. Denise disait aux merveilles. Le soir traînait des hirondelles. Les hiboux partageaient le soleil et pesaient sur la terre comme les pas jamais lassés d'un solitaire, plus pâle que nature et dormant tout debout. Le soir traînait des armes blanches sur nos têtes. Le courage brûlait les femmes parmi nous. Elles pleuraient. Elles criaient comme des bêtes, les hommes inquiets s'étaient mis à genoux. Le soir, un rien, une hirondelle qui dépasse, un peu de vent, les feuilles qui ne tombent plus, un beau détail, un sortilège sans vertu pour un regard qui n'a jamais compris l'espace.
Pour essayer de montrer qu'il y a un côté élaboré chez Éluard et qu'en fait il est réticent à l'égard, il n'y a que quelques textes dits automatiques, parce qu'il est extrêmement réticent vis-à-vis de cette pratique où le langage s'écoule et où il n'est pas maîtrisé, finalement. Mm-hmm. Dans le récit de rêve, il y a encore une maîtrise qui vient du fait qu'il y a quelque chose à raconter qui sert donc de buter. Dans le discours automatique, il n'y a rien sur quoi on bute, en principe. Et c'est ça qui, pour Éluard a besoin de buter soit sur une forme, les haïkai, soit sur un rythme, l'alexandrin, la rime, soit sur un canevas objectif, si j'ose dire, qu'est le rêve. Le rêve a été vécu et on en garde un souvenir, et c'est ce souvenir qui fait la trame même de ce qu'on écrit. Tandis que Breton fonce dans les textes automatiques, même s'il est réticent à l'égard du côté peu esthétique parfois de ces textes.
J'étais assis dans le métropolitain en face d'une femme que je n'avais pas autrement remarquée. Lorsqu'à l'arrêt du train, elle se leva et dit en me regardant « Vie végétative ». J'hésitais un instant, on était à la station Trocadéro, puis je me levais, décidée à la suivre. Au haut de l'escalier, nous étions dans une immense prairie sur laquelle tombait un jour verdâtre, extrêmement dur, de fin d'après-midi. La femme avançait dans la prairie sans se retourner et bientôt un personnage très inquiétant, d'allure athlétique et coiffé d'une casquette, vint à sa rencontre. Cet homme se détachait d'une équipe de joueurs de football composée de 3 personnages. Ils échangèrent quelques mots sans faire attention à moi, puis la femme disparut et je demeurai dans la prairie à regarder les joueurs qui avaient repris leur partie. J'essayais bien aussi d'attraper le ballon, mais je n'y parvins qu'une fois.
Du côté d'André Breton, j'avais choisi un récit de rêve, un texte automatique, épervier incassable, et un poème, Tournesol, pour montrer que lui pratique le tout et qu'il y a finalement une relative cohérence de ces différentes formes chez lui. C'est-à-dire qu'il ne joue pas dans l'écriture sur une opposition systématique des formes, bien que les surréalistes, dans la révolution surréaliste, c'est très clair, ont, au bout d'un certain temps, donné une figure autonome au récit de rêve, au texte surréaliste et au poème. Il y a des rubriques différentes dans la révolution surréaliste. Donc ça suppose qu'il y a des genres. Ce que, si on discutait plus longtemps, on pourrait montrer qu'ils ont refusé les distinctions de genre. Néanmoins, ils ont pratiqué des distinctions de genre de manière un peu intuitive dans leur revue de la révolution surréaliste.
Oui, malgré le rejet du récit narratif de Breton.
Oui, sauf que, après tout, les poissons solubles, les récits de rêve sont déjà des embryons de récits. Après tout, c'est du roman.
Tournesol à Pierre Reverdy. La voyageuse qui traversa les halles à la tombée de l'été marchait sur la pointe des pieds. Le désespoir roulait au ciel ses grands arômes si beaux, et dans le sac à main il y avait mon rêve, ce flacon de sel que seule a respiré la marraine de Dieu. Les torpeurs se déployaient comme la buée aux chiens qui fument, où venaient d'entrer le pour et le contre. La jeune femme ne pouvait être vue d'eux que mal et de biais. Avais-je affaire à l'ambassadrice du salpêtre ou de la courbe blanche sur fond noir que nous appelons pensée? Le bal des innocents battait son plein, les lampions prenaient feu lentement dans les marronniers. La dame sans ombre s'agenouilla sur le pont au change. rugit le cœur, les timbres n'étaient plus les mêmes. Les promesses des nuits étaient enfin tenues. Les pigeons voyageurs, les baisers de secours se joignaient au sein de la belle inconnue, dardés sous le crêpe des significations parfaites. Une ferme prospérait en plein Paris et ses fenêtres donnaient sur la Voie lactée. Mais personne ne l'habitait encore à cause des survenants. Des survenants qu'on sait plus dévoués que les revenants. Les uns, comme cette femme, ont l'air de nager, et dans l'amour, il entre un peu de leur substance. Elle les intériorise. Je ne suis le jouet d'aucune puissance sensorielle, et pourtant, le grillon qui chantait dans les cheveux de Cendre un soir près de la statue d'Étienne Marcel m'a jeté un coup d'œil d'intelligence. André Breton, a-t-il dit, passe.
J'avais choisi trois textes de Perret parce qu'ils sont d'un humour extraordinaire qui tranchent avec les textes des autres, me semble-t-il.
Perret, je trouve que c'est le plus orthodoxe.
On le dit, en tout cas.
Benjamin Perret, portrait de Max Ernst. Tes pieds sont loin, je les ai vus la dernière fois sur le dos d'un cheval jument qui était mou, trop mou pour être honnête, trop honnête pour être vrai. Le cheval le plus vrai n'est jeune qu'un moment, mais toi, je te retrouve. Dans les rues du ciel, dans les pattes des homards, dans les inventions sauvages.
C'est ce que Ponge appelle justement des textes agencés comme des bombes. Et Aragon a défini, me semble-t-il, ce mode de recours à l'image en parlant du stupéfiant image.
Oui.
Il a dit le vice appelé le surréalisme, c'est l'emploi déréglé du stupéfiant image. Mmh. Alors qu'est-ce que c'est que ce stupéfiant image? Qu'est-ce que c'est que l'image surréaliste?
Alors, Aragon a employé ce terme, qui est également repris par Breton dans le manifeste. Le stupéfiant image, justement, se distingue de la bombe de Ponge, parce que la bombe de Ponge suppose un artificier extrêmement prudent qui agence pas à pas. En d'autres termes, les textes de Ponge, dans leur hardiesse, sont d'une hardiesse éminemment concertée. En revanche, si l'on s'en rapporte à ce que nous avons dit il y a quelques instants, que la mise en effervescence du langage supposait une confiance dans la potentialité du langage, une potentialité propre du langage, ce que le poète surréaliste fait, c'est d'accueillir les suggestions qui viennent de la langue elle-même, et qui viennent de la langue elle-même lorsque le poète ne cherche pas de manière systématique à faire un agencement. Cet agencement s'impose.
La collision flamboyante des mots, disait Jacques Vacher.
Oui, c'est une collision, c'est une irruption dans un même champ de termes qui, en principe, n'ont rien à voir ensemble.
Mais c'est une vision analogique du monde encore.
Dans la mesure où les surréalistes tentent d'articuler la pratique littéraire à une éthique, on peut dire qu'en effet, il y a, au-delà de cette pratique de l'image, une métaphysique qui serait celle de l'universelle analogie, d'un accord, d'une harmonie possible, encore que non réalisée. Le surréalisme cherche bien, en effet, à dépasser les contradictions pour que s'établisse une harmonie. Mais cette harmonie est à venir.
Oui. très court extrait d'une émission qui a été réalisée avant la guerre par mon ami Robert Nesnos, qui fut l'un des premiers à avoir compris le merveilleux instrument que pouvait être la radio entre les mains des poètes.
Tu ne souffriras pas. 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 Tu ne souffriras pas.
Le stupéfiant image ou la poétique surréaliste par Alain Borer, Janine Antoine, avec la participation de Jean-Jacques Brochier, Marie-Claire Dumas. Voix Roséliane Goldstein, Valère Novarina, Christian Rist, Léon Spiegelman. Document de l'Institut National de l'Audiovisuel, recueilli par Suzanne Legrand.
C'était « Le stupéfiant image ou la poétique surréaliste », un numéro d'Albatros d'Alain Borer, diffusé pour la première fois le 18 novembre 1979 et réalisé par Janine Antoine, avec la participation de Jean-Jacques Brochier et Marie-Claire Dumas, ainsi que des lectures de Roséliane Goldstein, Valère Novarina, Christian Rist et Léon Spiegelman.